Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre émission de Giramundo. Bonsoir chers auditeurs. Voilà, vous êtes à l'écoute du CKIA 88,3. Ce soir, donc, une émission de 2 heures entre 19h donc et 21h. Une première heure qui sera réservée à la situation en Côte d'Ivoire tout ça va être bonifié par la musique de Tikenja Fakoli. Donc moi, je serai derrière le micro pour la première heure. Mon nom est Pascal O. Et ma collègue Geneviève Olivier d'Avignon. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour Pascal O. Bonjour à tous. Bonjour à toutes.
Voilà. Qu'est-ce que tu nous réserves, Geneviève, dans la deuxième heure de cette émission?
Dans la deuxième heure, on va avoir du hip-hop bien engagé, du hip-hop bien politique. En fait, le groupe Rebel Diaz, qui sont du Bronx à New York, un groupe qui vient de Chicago, puis qui a migré vers le Bronx, qui fait vibrer non seulement du super de bon beat et des bonnes paroles engagées, mais aussi un centre communautaire artistique qui dégage et qui bouge énormément dans ce quartier bien agité. Donc, c'est ça qu'on va visiter en deuxième heure. On va avoir aussi la visite d'un bon fan de hip-hop allemand qui va nous faire découvrir un petit peu la scène actuelle allemande et russe. Donc, on va avoir ses choix musicaux, là, quelques pièces de Anton qui va être avec nous dans la deuxième heure.
Ben excellent. Alors, c'est magnifique tout cela. Donc, chers auditeurs, on vous souhaite de passer une agréable soirée avec nous durant les 2 prochaines heures avec vos animateurs Geneviève et moi-même Pascal O. On commence donc cette première heure tout de suite en musique avec Tikenja Fakoli avec une chanson qui s'intitule « Le pays va mal » tirée de son album « Le caméléon » qui date de l'an 2000. Donc on écoute ça et après ça on va commencer ce petit retour sur l'actualité ivoirienne. Thank you. Alors, mes chers auditeurs, voilà, donc on commence cette première heure, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en ouverture. On va parler de la question de la Côte d'Ivoire. Peut-être certains d'entre vous ont suivi les événements ces derniers temps. Je crois qu'il s'agit de remettre en perspective un peu tout ce qui se passe ces derniers mois suite aux élections qui se sont déroulées à l'automne en Côte d'Ivoire, avec maintenant la montée des violences. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette heure-là, et je vais justement faire un peu alterner ça avec la musique de Tikenja, étant donné que Tikenja est un chanteur d'origine ivoirienne. C'est également un chanteur reggae-man très, très engagé. On peut dire que son message est très, très politisé. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras devant l'injustice, qui a toujours tenté dans ses messages de défendre les minorités, de défendre les gens qui étaient victimes de la xénophobie, qui étaient victimes de discrimination et des régimes autocratiques. Et voilà que Tikenja Fakoly vient en tournée au Québec. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu à l'émission très très populaire de Guy Lepage, tout le monde en parle. Donc il était là il y a quelques semaines, il a fait aussi le studio 12 avec l'animatrice Rebecca Makonnen. Donc il était un peu on pourrait dire en promotion pour sa venue dans la belle province. Il sera à Québec à l'Impérial vendredi prochain, donc le 11, ainsi qu'à Montréal les 12 et 13 mars, donc à la salle de l'Olympia. Et voilà, bon, pour ceux qui connaissent Tikenja depuis des années, donc qui s'est engagé dans un combat politique à travers le reggae, on sait bien sûr historiquement le reggae a été le vecteur de messages qui tendait à vouloir amener une conscientisation, une prise de conscience de la part des masses. Et c'est souvent un peu l'université de la rue. C'est en Jamaïque ou dans d'autres pays, le reggae a souvent servi à véhiculer des messages, entre autres des messages politiques. Et voilà, donc comme je vous le disais, Tikenja fait partie de ces chanteurs qui sont porteurs d'un message très politique. Et voilà, la situation en Côte d'Ivoire, bon, si on veut y venir, présentement on est dans une, on pourrait dire, une impasse où il y a présentement deux présidents. En fait, deux personnes qui se réclament comme chef de l'État en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Laurent Gbagbo qui est là depuis 2000, et Alassane Ouattara, donc qui a été pendant longtemps considéré par ses détracteurs comme n'étant pas un Ivoirien. puisqu'il n'est pas né de mère et de père ivoirien. Voilà, on l'a accusé d'être un Burkinabé. Et pour comprendre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut revenir au concept d'ivoirité qui a été mis en place à la fin des, ben en fait au milieu des années 90 par Henri Conan Bédier. Et bon, avant ça, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire, pendant de 60 à 1993, c'était le régime du parti unique avec Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque le vieux père, le père de la nation, est décédé en 93 et qu'il n'avait pas désigné de successeur, là, il y a eu vraiment un combat pour le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment-là, c'est ça. Il faut remettre ça aussi dans le contexte économique qui était à ce moment-là défavorable. La Côte d'Ivoire avait été un modèle de succès, de réussite économique dans les années 60, 70, 80. C'était le précaré des Français parce que la France a gardé beaucoup d'intérêts économiques en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, le régime de Monsieur Houphouët-Boigny était très favorable à la présence française. Et là, dans les années 90, donc une guerre de pouvoir qui s'installe, une certaine instabilité aussi, et donc Henri Conan Bédier à ce moment-là qui propose, disons, des réformes au niveau constitutionnel pour écarter un opposant politique qui était Alassane Ouattara. Donc il propose le concept d'ivoirité. Et donc ça fait que ça avait pour but d'écarter cet opposant-là qui n'était pas né de père et de mère ivoirienne, donc qui n'est pas nécessairement de souche, mais du fait même ce concept-là vient qu'à être appliqué à une partie de la population qui ne correspond pas, disons, à une certaine élite politique qui vient du Sud. Faut comprendre que, bon, en Afrique, il y a de toute époque eu de grands mouvements de population, mais particulièrement après, lorsque la Côte d'Ivoire a pris son indépendance, le président de l'époque a appelé les ressortissants des pays voisins à venir construire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche de ses plantations de cacao, de coton, etc., etc. Un pays qui repose sur une économie de rente, sur une agriculture de rente, qui a besoin de main-d'œuvre à bon marché. Donc, on a les voltaïques, hein, les Burkinabés qui viennent, les Guinéens, les Maliens, tout ça, et qui viennent, qui a constitué une grande partie de la population. Mais aussi, on a des gens au nord de la Côte d'Ivoire qui sont là depuis des générations et qui sont des Malinkés, qui sont des Djoula et tout ça, et qui sont souvent de religion musulmane et de langue mandingue. Et donc, il y a comme un clash il y a entre les élites politiques du Sud et ceux du Nord. Et donc, le concept d'ivoirité ne vient qu'envenimer cette situation-là. Et donc, on aura à ce moment-là, à partir des années 2000, beaucoup d'instabilité. Et une partie, donc, de la population ivoirienne se voit privé de sa nationalité. Beaucoup d'Ivoiriens du Nord ne sont pas reconnus comme des Ivoiriens, ne peuvent pas obtenir de pièces d'identité, ou certains se voient retirer leurs pièces, se voient déchirer leur certificat de citoyenneté, etc., etc. Donc ça crée nécessairement un ressentiment, et tout ça amènera la crise qu'on a connue dans les années 2000 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Bref, je vais faire une pause musicale. On va y aller avec une pièce de Tikenja Fakoly, toujours tirée d'un album qui s'appelle Cours d'histoire et qui s'appelle Nationalité. Cette pièce-là, qui est chantée en français, avec des petits extraits de Joula, rappelle que la Côte d'Ivoire, de toute époque, a été un pays ou un territoire qui a accueilli des peuples, des populations d'un peu partout. Et voilà, et on peut pas aujourd'hui considérer que ces gens-là ne sont pas ivoiriens, puisque c'est très difficile de définir qui est vraiment ivoirien. Donc voilà, on écoute Tikenja Fakoly, la pièce Nationalité. Ici à Jeremondo, c'est Kaya 88,3.
Anya fo, be ye fere onya nya fo che do belange lo boni
C'est en 1893 que ce territoire fut baptisé Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux dont les ancêtres sont nés après cette date sont ivoiriens. Arrêtez les blabla partisans pour éviter de mettre en péril l'unité nationale.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de CKIA 88,3 avec l'émission Giramundo, Pascalo ici à l'animation et aux commandes. Donc, vous venez d'entendre la pièce de Dikenja Fakoly qui s'appelle « Nationalité » tirée de son album « Cours d'histoire ». Un album qui est devenu un peu classique dans le reggae africain. Et bon, comme Dikenja le dit dans cette chanson, il parle de la façon dont la Côte d'Ivoire s'est construite, des vagues de migration, des dynamiques de population qui sont venues constituer les peuples qui se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire. Et comme il le dit, la Côte d'Ivoire a pris son nom à la fin du 19e siècle. À l'époque coloniale, et que tous ceux qui sont nés après cette date devraient être considérés comme des Ivoiriens. Mais contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas exactement le cas, puisque, comme je vous l'ai rappelé, il y a cette doctrine qui a été mise en place, ce concept d'ivoirité qui est apparu dans les années 90 et qui s'explique essentiellement par la crise politique que connaît la Côte d'Ivoire à partir du milieu des années 80. Bon, on sait que quand il y a des problèmes au niveau économique, souvent il y a des relents de xénophobie qui se développent. On a vu ça dans plein de pays, que ce soit en Europe, en Asie ou ailleurs, et souvent dans des pays de forte migration. Donc, ça a été le cas de la Côte d'Ivoire à partir du moment que... où est-ce qu'on avait une crise économique, il y a eu des relents de xénophobie envers des populations qui sont considérées comme des migrants ou des descendants de migrants. Et on a voulu aussi faire une réforme agraire et faire en sorte que tous ceux qui n'étaient pas considérés comme des Ivoiriens, nés de père et de mère ivoirienne, n'avaient plus accès à la terre. Donc ça causait un grave préjudice à ceux qui étaient installés parfois depuis très longtemps. Parfois c'est des gens qui sont venus disons il y a 30 ans et qui ont travaillé toute leur vie sur une terre et qui avaient eu des droits d'usage, parce que en Afrique il y a le droit coutumier qu'on retrouve par rapport à, on peut pas dire qu'il s'oppose, mais c'est un niveau de droit qui est reconnu localement, et il y a le droit foncier national qui est reconnu souvent plus par les juridictions étatiques. Et donc au niveau local, souvent l'occupation du territoire peut se faire de différentes façons, c'est-à-dire que les autochtones peuvent attribuer un droit d'usage à des allochtones, c'est-à-dire que les allochtones qui vont venir demander une parcelle pour faire de l'agriculture vont se voir octroyer cette parcelle-là pour leur usage. Elle ne leur appartient pas nécessairement, c'est-à-dire ils n'ont pas tous les droits, mais ils ont un droit d'usage qui est acquis. Et à partir du moment qu'on a décrété cette réforme agraire là c'est venu envenimer la situation, et c'est venu créer des tensions. Et à partir de la fin des années 90 déjà, Henri Conan Bédier, dont j'ai parlé, qui est un peu le père de l'ivoirité là, lui il a été renversé par l'armée. On dit que c'était pas seulement à cause du concept d'ivoirité, mais à cause d'une réforme de la constitution qu'il avait tenté de faire pour lui permettre de se présenter aux élections jusqu'à l'âge de 75 ans, parce que pour se présenter aux élections comme candidat, il faut être âgé entre 40 ans et 75 ans. Donc lui voulait repousser cette échéance-là. Et à ce moment-là, donc, il y a eu Robert Gay qui est arrivé, qui a été placé au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Et l'ivoirité est restée quand même comme doctrine et continue à être utilisée pour limiter la vie sociale des Ivoiriens d'origine douteuse. Donc, encore une fois, une politique d'exclusion envers ceux qui ne sont pas étiquetés, ne sont pas vus comme des Ivoiriens. Donc, il suffit d'avoir un nom, parfois à consonance musulmane, un prénom à consonance musulmane ou un patronyme à consonance mandingue, être un Koulibaly, un Kanté, un Doumbia, pour être vu comme non-ivoirien, alors que ces gens-là, ces populations-là sont là parfois depuis plusieurs générations, comme je l'expliquais. Donc, c'est venu envenimer la situation à partir donc des années 2000. Je disais, là, il y a eu un conflit politique qui s'est dégradé. Robert Gay, en 2002, il a été assassiné. Il y a eu des violences qui ont commencé et une rébellion qui s'est mise en place. Bon, je vous épargne certains détails, mais juste pour dire que il y a eu, on pourrait dire, une partition du territoire ivoirien. Le territoire a été divisé en deux. Donc, toute la région au nord de Boaké a été occupée par ce qu'on a appelé les forces nouvelles. Donc, des gens souvent qui avaient été écartés de l'armée, puisqu'on leur disait qu'ils n'étaient pas des Ivoiriens. Il y a eu parfois aussi des belligérants qui sont venus de pays voisins, qui sont venus du Libéria, qui sont venus du Burkina Faso, qui ont joint les rangs des rebelles. Et à ce moment-là, donc, c'est à partir des années 2002 jusqu'à tout récemment, le pays a été vraiment divisé. Et il y a eu en 2004 des grands conflits armés. La France a tenté d'intervenir, bon, premièrement pour protéger ses ressortissants, puisqu'il y a des milliers de Français qui se trouvent en Côte d'Ivoire, protéger les intérêts économiques aussi des Français. Il y a Bolloré, Bouygues qui sont là, qui font des affaires en or. Une grande partie des PME sont françaises, des grandes compagnies de génie civil et tout ça sont également françaises. Le port appartient à des compagnies françaises, etc. Donc, ils avaient tout intérêt à protéger ces avoirs économiques. Et là, il y a eu vraiment de part et d'autre des attaques qui auraient été faites entre les forces de maintien de la paix, les forces françaises qui étaient présentes, l'opération Licorne et les forces loyalistes de Laurent Gbagbo, puisque là c'était Laurent Gbagbo à l'époque qui depuis en fait 2010 là qui est au pouvoir. Et donc aujourd'hui après des années où la communauté internationale a tenté d'aider les deux camps à se réconcilier par différents accords et en organisant des élections qui ont été maintes fois repoussées pour différentes raisons, entre autres pour la constitution de la liste électorale qui a été très très complexe, on se retrouve après un deuxième tour avec deux présidents, c'est-à-dire Laurent Gbagbo qui ne reconnaît pas, en fait, il ne reconnaît pas le résultat qui a été proclamé par la commission électorale indépendante, alors que ça a été mis en place par la Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens qui y siègent, mais il ne reconnaissait pas ces résultats et il a aussi voulu faire annuler les résultats dans plusieurs bastions de son opposant, donc Alassane Ouattara. Considéré comme un nordiste, comme quelqu'un qui appuie les rebelles et tout ça. Donc, une partie de l'électorat qui s'est vu privé de sa voix. On se retrouve avec deux présidents. Un président reconnu par la communauté internationale, donc Alassane Ouattara, et un président qui se dit le président du peuple ivoirien, le seul et unique président ivoirien, donc Laurent Gbagbo, qui refuse de céder la place et qui est de plus en plus isolé autant au niveau de la communauté internationale, de l'Europe, des États-Unis, autant qu'au sein de l'Union africaine. Bon, au niveau de l'Union africaine, il y a eu quand même une certaine dissidence, puisque c'est sûr que si on se disait qu'il fallait chasser, disons, Laurent Gbagbo du pouvoir à cause qu'il n'a pas respecté le résultat des élections, ben là, il y aurait plein de présidents actuels, un président africain qui devrait aussi, leur pouvoir devrait être remis en cause. Alors que souvent, ces présidents-là font l'affaire des Français, des Américains, qui font des affaires d'or en Afrique. Alors que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un foncièrement anti-français, en fait, contre la politique de Sarkozy, pas nécessairement contre les intérêts français, puisqu'il collabore très bien avec les compagnies qui sont là. Mais donc c'est quelqu'un qui fait pas l'affaire des politiques internationales et bon, bien sûr, on l'accuse d'avoir orchestré des violences. Il y a un de ses ministres, Blé Goudé, là, qui faisait partie des jeunesses, des jeunes, comment on les appelle, en fait, des jeunes qui sont loyaux à Laurent Gbagbo et qui a organisé certaines manifestations pro Gbagbo. Et là, ces derniers mois, là, la situation s'est vraiment envenimée. Et là, on craint une nouvelle recrudescence des violences, un retour de la guerre civile. Et là, les affrontements ont lieu même à Abidjan, dans des quartiers comme Abobo, un quartier qui est majoritairement peuplé de communautés musulmanes ou de ressortissants du Nord. Donc, c'est des quartiers souvent pro-Ouattara. Et là, on a eu tout récemment des manifestations de femmes qui ont été réprimées. Le clan Gbagbo refuse les accusations que ses forces auraient tiré à balles réelles sur les manifestantes. Ils disent qu'il n'y avait aucun des membres de son armée, aucun de ses soldats qui étaient sur place lors de cette manifestation-là, contente de discréditer son pouvoir. Bref, vous voyez, il y a quand même des enjeux énormes au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une joute politique qui se joue entre les acteurs africains, mais parce qu'il y a eu différents présidents qui sont venus rencontrer Laurent Gbagbo à maintes fois ces dernières semaines, et à chaque fois ils sont rentrés bredouille de leur séjour à Abidjan, puisque Laurent Gbagbo refuse de toute forme de négociation, refuse de céder une partie de son pouvoir à Alassane Ouattara. Donc voilà, on se trouve dans une situation presque inextricable, et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Présidents français ou autres ont dénoncé les violences récentes en Côte d'Ivoire. On parle de peut-être plus de 300 morts. En même temps, les chiffres, bon, c'est toujours, ça peut être manipulé par les médias. Mais toujours est-il que, voilà, on se trouve devant une guerre politique, et à travers tout ça, ce sont les populations qui souffrent. On a maintenant des dizaines de milliers de réfugiés qui se dirigent vers les frontières, entre autres la frontière libérienne. On sait que le Libéria était un pays qui a été pendant très très longtemps en crise, qui a vécu une guerre civile pendant des années, et là il y a un flux de réfugiés, entre autres beaucoup de femmes et d'enfants qui arrivent vers le Libéria, et même Médecins sans frontières ne peut plus agir dans ces zones-là, puisque ce sont des zones très très dangereuse, où il y a beaucoup de violence. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je sais pas si c'est plus clair ou si c'est moins clair. Bref, je vais laisser Tikenja Fakoli parler d'une voix très très clair. Lui, il affirme quitte le pouvoir. Donc, on écoute une chanson de son album Coup de gueule.
Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements depuis 40 ans. Tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Well, chicken gentleman, man for the body. I was up in that side. PBS got it, come man. Well, no man, good talk. On a marre, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a pas un patin, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes bon et mental, vis dans le mal, tu nous fais dans le mal, il est donc évident que tu baisses dans le mental, pas d'évolution, mal libère le peuple, fais le vite, fais le bien, mal libère le peuple, et pense à demain, mal libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, restez tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tous les potes, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, sort dans le calme, t'es qu'à la vanille et sort dans le calme.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi. Monsieur le Président, quittez le pouvoir. Monsieur le Président, si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Quitte le pouvoir,
quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Je suis comme un enfant, naïf et sans limite. Toi tu es déjà vieux et ton regard est désolant. Tu cours après le temps, mais le temps passe vite. Moi je suis là, je marche et j'ai vu le moment présent. J'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent. Mais les miennes sont des pierres et les tiennes sont d'argent. Je ne veux pas ton pouvoir,
pas besoin de la voir. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Je me nourris de pain, de rire et de soleil. Toi tu donnes des ordres et n'en finis pas de compter. Dès que je tends la main, dès que je tends l'oreille, j'ai tout des trésors que tu ne peux pas attraper. J'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent, mais les miennes sont de miel et les tiennes sont d'argent. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, je désespoir. Je ne veux pas t'en pouvoir, voilà mon histoire. Si tu pouvais t'arrêter sur le côté de la route, si tu pouvais t'arrêter, tu le comprendrais sans doute. Ni son ni frère ni cousin, je n'irai pas, n'aie pas peur, me servir dans ton jardin. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de la voix, je ne suis pas ton miroir. Mais ton cauchemar, je ne veux pas de ta gloire. Je dis l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir. Voilà mon histoire. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas ton miroir. Mais ton cauchemar, je ne veux pas de ta gloire. Je dis l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir. Voilà mon histoire.
Voilà, vous êtes toujours à l'émission Giramundo, c'est Kaya 88,3 en compagnie de Pascalo pour cette première heure. Donc vous venez d'entendre deux pièces de Tikenja Fakoly, Je ne veux pas ton pouvoir de son dernier album African Revolution et tout juste avant Quitte le pouvoir de l'album Coup de gueule. Donc, vous avez vu une certaine constance dans le message de Tikenja. Bien sûr, le message reste à peu près le même, les mêmes objectifs, toujours de dénonciation des dérives politiques et des joutes de pouvoir. Et en même temps, l'album de Tikenja qui est paru cet automne, qui s'appelle African Revolution, tombe à point dans le message, puisque on a bien sûr vu des régimes tomber tout récemment en Tunisie, également en Égypte, et puis là en Libye. Bon, c'est un bain de sang qu'on observe, mais on sent un pouvoir aussi très très chancelant, le pouvoir de Kadhafi qui est là depuis la fin des années 60, depuis 1969. Donc des régimes autocratiques qu'on retrouve au Maghreb, on a aussi bien sûr des équivalents en Afrique subsaharienne, et c'est ce que dénonce beaucoup Tikenja Fakoly à travers ses différents albums. Hein, c'est depuis Manger Crassi à la fin des années 90 jusqu'à Manger Crassi, c'était 96. Jusqu'à African Revolution, donc 14 ans qui se sont écoulés, mais toujours un même message très très contestataire. Et puis bon, on peut le comprendre parce que Tikenja Fakoly, tout à l'heure, bon, je vous ai expliqué la situation en Côte d'Ivoire, cette xénophobie, cette division un peu entre le nord et le sud. Et Tikenja Fakoly a été accusé à une certaine époque, au début des années 2000, quand c'était très très chaud, il a été accusé de représenter un peu la branche culturelle, la branche musicale de la rébellion. Et bon, c'est un ressortissant du nord, il vient de Odjene. Son vrai nom c'est Moussa Doumbia, et bon, les Doumbia sont des mandingues. Les Dumbia, les Mandingues, on les retrouve, que ce soit en Guinée, que ce soit dans le sud du Mali ou que ce soit en Côte d'Ivoire. Même une partie, je pourrais dire, du Libéria, Sierra Leone, et puis jusqu'en Guinée-Bissau, il y a des Mandingues ou des gens de la grande famille Mandingue. Et donc, Tikenja Fakoly avait reçu des menaces de mort à l'époque. Et c'est pour ça qu'il est venu s'installer en 2002 au Mali, à Bamako, là où il a installé son studio, le studio H Camara, où a été enregistrée une partie de ce dernier album-là. Un dernier album qui est tout en finesse, tout en subtilité, avec des instruments africains, des instruments mandingues. On entend le sokoum, qui est un très beau petit violon monocorde. On entend la kora, bien sûr, cette harpe luth mandingue. Le djelingoni, c'est l'ancêtre du banjo, une petite luth à quatre cordes. Tout ça, donc, une façon de se réapproprier le reggae à l'africaine. Bon, moi, j'avais travaillé un peu en Afrique de l'Ouest, au Mali, particulièrement dans les années 2004-2005, sur le thème du Rastafari et du reggae au Mali. Et puis, beaucoup de musiciens maliens ou ivoiriens me disaient que, eux, le reggae, ils le ressentaient comme une musique africaine. Parce que, bien sûr, il y a des survivances africaines dans le reggae, même si c'est une musique très très métissée avec toutes sortes d'influences de musique noire, mais il y avait quand même dans certaines rythmiques des survivances africaines. Des sinoufos, des musiciens sinoufos reconnaissent certains rythmes funèbres joués au balafon dans les rythmiques du reggae. Donc c'est tout à fait normal que maintenant les Africains se réapproprient le reggae avec une autre musicalité et un message aussi qui est très très lié à la situation sociopolitique et socio-économique de leur pays. Donc Tikenja Fakoly est un de ces chantres, disons, d'une révolution à l'africaine, et aussi son combat passe beaucoup par la sensibilisation, par l'éducation. Comme je l'ai dit, le reggae, c'est souvent un peu l'université de la rue, c'est une façon de sensibiliser les masses, et lui prêche beaucoup il valorise beaucoup l'alphabétisation, l'éducation de la jeunesse, et il se dit que, en fait, ce qu'on a vu en Tunisie et en Égypte, c'est bien grâce à la mobilisation des jeunes et d'une certaine couche de la société qui est éduquée. Il dit, lorsqu'on n'est pas instruit et qu'on est manipulé par les politiques, bien sûr, on peut pas s'organiser pour faire un mouvement contestataire, comme on a vu en Turquie et en Égypte et présentement en Libye. Donc, bon, lui, il se dit qu'on doit encore attendre peut-être une génération avant que les jeunesses africaines se mobilisent. Parce que, bon, puis aussi, il y a la situation économique. Bon, la situation économique n'est pas nécessairement plus enviable au Maghreb, mais quand même, on a toute une politique qui s'est mise en place depuis très longtemps, où on achète les votes, et là, il a dénoncé ça dans une de ses chansons, là, en Djoula, il chante la chanson « Voter », il parle de la façon dont on achète les consciences, c'est-à-dire lors des campagnes électorales, on a pu voir à une certaine époque que des politiciens venir avec des sacs de billets de banque qui est distribué 1000 francs, 1000 francs. Bon, 1000 francs, c'est l'équivalent de 2,50 $. Ça veut pas dire grand-chose ici, mais au Mali, on peut, ou en Côte d'Ivoire, on peut très, très bien manger avec ça pendant une journée. Et donc, c'était une politique qui était très répandue. Et bon, quand les gens sont prêts à faire... À se faire acheter pour une maigre somme comme ça, ou pour quelques sacs de riz, ou encore du thé, du sucre, ou des t-shirts. Donc voilà, on est loin d'une véritable révolution. Et c'est un peu pour ça qu'il a monté tout un projet qui s'appelle Un concert, une école, c'est-à-dire le but, c'est de financer la construction d'écoles dans différents coins de l'Afrique, et ou la réhabilitation de certaines écoles qui étaient en train de tomber en ruine. Et donc, ça a été parfois par des concerts qui ont été réalisés en Europe, mais aussi de plus en plus sur le continent africain. Donc, il y a certaines de ces réalisations-là qui sont non négligeables et qui sont à féliciter. Il a pu réhabiliter certaines écoles dans le nord du Mali, entre autres, près de Niafoumké, ou encore dans d'autres régions, ben, dans sa région natale, bien sûr, au Djéné, aussi en Guinée. Il y a d'autres projets là, qui vont voir le jour, là, entre autres au Burkina Faso. Donc ça, bon, on peut dire que c'est une certaine révolution de voir un artiste qui s'engage là où souvent les gouvernements africains font faux bond. Parce que souvent, les gouvernements africains se sont engagés vers d'autres voies que celle de l'éducation, puisque c'est toujours plus facile de manipuler une population lorsqu'elle est analphabète, lorsqu'elle n'est pas instruite, et on peut l'instrumentaliser à nos propres fins. Voilà, encore une fois, j'ai beaucoup parlé. J'aimerais encore vous faire écouter une pièce de ce très bel album qui s'appelle « African Revolution ». Tiens donc, on pourrait écouter la pièce qui dit non. Je dis non, donc c'est la pièce numéro 2 de l'album. On l'écoute, Tikenja Fakoly à Geramundo.
Un couplet pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères. Ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ceci n'est qu'une chance, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, en chanson. Un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français, reconduits, menottés aux frontières. Frontières pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse. Africain, on ne l'est pas qu'au passé. Passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. Un couple pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter.
Ça va faire mal.
On pourra
contrôlé, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Alors voilà, c'est presque ce qui met fin à cette première partie d'émission. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon de l'histoire politique récente en Côte d'Ivoire, avec toutes ces divisions ethniques, ces divisions religieuses. Et voilà, on termine avec un message d'unité, le message de panafricaniste, on pourrait dire, la seule façon de finalement de s'en sortir, c'est l'unité, c'est l'union, c'est la force. Fouete Djekulouba, comme on dit en Bambara, rien ne fait l'union. L'union fait la force, comme on dit. Voilà. Donc, c'était Pascal O pour cette première partie d'émission. J'espère que vous avez apprécié. La deuxième heure suit tout de suite après les pubs avec Geneviève Olivier d'Avignon qui va nous parler du groupe Rebeldia avec leur projet de centre communautaire dans le Bronx, à New York. Et elle a quelques invités aussi qui l'accompagneront. Donc voilà, restez à l'écoute pour la deuxième partie de l'émission Géramundo au 88,3.
Ça va faire mal, ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal.